France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Rome, ville ouverte, le carrosse d'or, Mama Roma, Bellissima, la rose tatouée. Quelques titres, seulement quelques titres de la filmographie de l'actrice mythique, volcanique, tragique et comique que nous allons célébrer dans un instant. Fellini aussi, qui lui court après le soir dans Rome. Elle qui interprète alors son propre rôle dans Fellini Roma. Elle qui lui dit à Fellini, va dormir Federico, va. Évidemment, c'est Anna Magnani. Anna Magnani, l'héroïne des mardis du cinéma qui suivent, diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 juillet 1990. Une émission de Pascal Lismonde, réalisée par Claude Giovannetti.
Si vous les voyez là tous, De Sica, Rossellini, Magnani... Vous avez une telle personnalité que seulement les voix, aussi si vous ne savez pas qui ils étaient, vous demandez, mais qui est-ce? Absolument, c'était une présence.
Cosa c'è, Toreador?
Alle chine di lingue si stupe il delitto e la sintote ciò che voglia che tiri le cuoglia da qualcuno mi farò consolare
fa giubilo d'essere vera gaudio d'essere libera canchero diavolo povera te di nuovo arrendita in sé
le pubblico n'est pas de ce côté là mademoiselle Colombine c'est là qu'il est.
Oh, d'accord, monsieur Pantalone. C'est une erreur, mais je croyais qu'ici, on faisait tout à l'envers. Oh, alors on peut y aller, monsieur Pantalone, hein?
Dagli e dagli, qui tutti lo zompano, busse botte a dover lo sorbottano, ma quel ceppo con uno sberleppo, tutto arzillo rimettesi in piedi.
Hey, torero, n'essaye donc pas de me fasciner. Je ne suis pas le taureau.
Giubilo d'essere vedova, gaudio d'essere libera, diavolo canchero senza mercé, scannarmelo voglio da me.
Et alors pourquoi n'a-t-on jamais fait encore de rétrospective sur la Magnani en Italie? Est-ce qu'on ne l'aime pas en Italie, la Magnani?
Non, peut-être on pense que c'est quelqu'un de famille, c'est-à-dire qui, non, c'est comme ça, on ne doit jamais faire des consacrations pour quelqu'un de famille, quelqu'un qui en a près de soi. Au contraire, à l'étranger, on pense que Magnani, c'est une espèce de monument public, hein, et une espèce de trésor national. Et aussi parce qu'il y a toujours, dans les pays d'origine, de naissance, il y a toujours une espèce de snobisme envers les gens les plus fameux, les plus importants. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Magnani, peut-être, il avait trahi un peu son pays, c'est-à-dire que les satisfactions les plus importantes pour Magnani venaient, après Roma città aperta, venaient de l'étranger, c'est-à-dire l'Oscar en 1956 avec La Rose tatouée, et après aussi la collaboration avec Tennessee Williams en général, l'amitié avec Tennessee Williams, et après Renoir, avant Renoir et les carrosses d'or, et... on doit attendre Pasolini, parce qu'on peut dire que Magnani soit découverte à nouveau de la part des Italiens. Hein.
Adesso tocca a me. Sono Anna Magnani. Vedete quel taxi laggiù? Ci sono io, sto andando a teatro. Dunque, mi hanno chiesto di raccontarvi un episodio della mia vita. Io sono sicura che se non vi racconto una lite voi rimanete tutti delusi, non è così? Non so perché quando si parla della Magnani, effettivamente ogni tanto per la strada mi sento dire lascia sta, quella ti risponde male. Ho raccontato questo il piccolo incidente a Visconti, gli è piaciuto e insieme adesso cerchiamo di raccontarlo a voi.
Dunque, 10 anni fa... Pourquoi faut-il toujours me présenter comme une électre fermée et solitaire? Comment vous faire comprendre que je suis gay, que je ris, que je blague, qu'être un Amagnani m'amuse à la folie et que je jubile si quelqu'un dans la rue me reconnaît et si un flic me dit tout en dirigeant la circulation « Et ciao, nanare !» Bref, la même histoire que lorsqu'on s'émerveille parce que ma maison est meublée avec goût et qu'elle est pleine de livres. Mais combien de fois faut-il que je vous répète que je n'ai pas été ramassée dans la rue, que j'ai été au lycée, que j'ai étudié le piano pendant 8 ans, que j'ai fréquenté l'école d'art dramatique. Ou encore, lorsqu'on prétend que je suis née en Égypte et que mon père était égyptien. Mais moi, je suis née à Rome, ma mère venait de la Romagne et mon père de la Calabre. Jean Gilly, vous avez organisé en 1989 la grande rétrospective Anna Magnani. C'était une grande première à Beaubourg. Pourquoi avoir fait ce type de rétrospective et pourquoi avoir choisi la Magnani en particulier?
Bon, je crois que c'est une des actrices les plus représentatives du cinéma, et en particulier du cinéma italien. Je crois que sa célébrité a largement dépassé le cadre du cinéma. Je remarquais d'ailleurs récemment qu'un gros ouvrage consacré à la femme au XXe siècle porte en couverture une photographie d'Anna Magnani, comme si elle était en quelque sorte la quintessence de l'image féminine, bien au-delà des cercles artistiques. Donc Anna Magnani, il y avait aussi, j'ajouterai une dernière remarque, le fait que la carrière d'Anna Magnani commence dans les années 30, va jusqu'au début des années 70, donc on pouvait en même temps parcourir l'histoire de l'Italie depuis la période fasciste jusqu'au début des années 70.
Ce sont ses premières interprétations qui l'amènent au cœur du néoréalisme et bientôt à une grande carrière internationale. Rome, ville ouverte. L'honorable Angelina. Le miracle, la voix humaine, bellissima, le carrosse d'or, nous les femmes, la rose tatouée, l'enfer dans la cité, l'homme à la peau de serpent, l'arme de joie, mamma Roma, l'automobile, la divette, une rencontre.
Pour les metteurs en scène auteurs, je suis vraiment agaçante. Je ne suis pas le genre d'actrice qui reste là comme un objet, qui se laisse déplacer comme un verre ou utiliser comme une marionnette ou un robot. On ne peut pas me dire « regarde à droite, bouge ton bras, cours, fais la grimace ». Je veux être consciente de ce que je fais. Je veux contribuer à mon personnage. J'ai quelque chose à dire, moi. Mais les metteurs en scène se sont placés sur un piédestal. Ce sont eux, les étoiles. « Bravo, je suis l'auteur », déclare-t-il. Et qu'est-ce qu'ils sont, les acteurs? Les mots, les phrases, les points, les virgules de leur roman? Eh bien, Anna Magnani ne se contente pas d'être un point-virgule. La vérité est que tout va bien seulement si je joue des rôles réalistes, vrais, humains. Je peux donner quelque chose au cinéma seulement avec des films réalistes. Alors sa filmographie, parce que vous avez pratiquement présenté l'intégrale, c'est à peu près une quarantaine de films, c'est énorme en fait. Et curieusement, on a l'impression que c'est une actrice qu'on a donc beaucoup vue, et en même temps, il y a surtout quelques rôles qui surnagent.
Oui, mais c'est vrai que c'est d'ailleurs une des singularités d'Anna Magnani, d'avoir réussi à imposer une image de star. Alors même que si l'on examine sa filmographie, on s'aperçoit que c'est une filmographie discontinue, où tout n'est pas constitué de chefs-d'œuvre ou de grands films mémorables. En fait, c'est quelqu'un qui a réussi à imposer son image, même dans des films, disons, de série B, pour ne pas dire dans des films médiocres. Même sa carrière américaine, par exemple, est une carrière avec des hauts et des bas, une carrière qui n'a d'ailleurs pas été beaucoup appréciée en Italie. certains films.
On lui
films.
En a même carrément beaucoup voulu.
Oui, on lui en a même beaucoup voulu, parlant de trahison, alors qu'en fait, c'était quelque chose que d'autres actrices avaient déjà fait. Isa Miranda était également, ou Alida Valli avait également essayé de tenter une carrière américaine. Dans le cadre de la Magnani, qui était vraiment considéré un peu comme l'emblème de son pays à partir de Rome ville ouverte, qui marque la sortie de l'Italie du fascisme et de la guerre, dans ce film consacré à la résistance, son départ est un peu perçu comme une désertion, quoi. Alors qu'en fait, c'était une façon normale, cette comédienne, de vouloir élargir son champ d'expérience. Comment regretter ce départ aux États-Unis alors que le cinéma italien ne lui offrait pas toujours les rôles auxquels elle pouvait prétendre.
Vous savez, en Italie, on aime beaucoup détruire ses dieux. C'est quelque chose de très différent qu'en France, car ils sont très fidèles. L'Italie n'est pas fidèle. Et puis, ils aiment beaucoup lorsqu'ils ont détruit quelqu'un à lui donner faire la gloire après de nouveau. Ils se sentent généreux. Lorsqu'Anna est morte, j'ai jamais vu quelque chose de pareil. Qu'est-ce que c'était au bord de la clinique pendant le service funèbre. C'était une espèce de manifestation comme un chef d'État n'a jamais reçu. Au contraire, on avait été vraiment très peu gentil avec elle.
Oui, parce qu'il y avait effectivement tout Rome son enterrement.
Oui.
C'est formidable. Mais vous, donc, Suzo Cecchi d'Amico, Anna Magnani, vous l'avez connue non seulement parce que vous avez écrit plusieurs des films qu'elle a interprétés, mais aussi c'était une amie.
Elle était surtout une amie, car je cherchais à travailler pour elle le moins possible.
Pourquoi ?
Car elle était un caractère très difficile. Et alors, c'était très difficile à la persuader à faire de personnage qui ne soit pas Anna Magnani elle-même. Ça devenait toujours Anna Magnani. Et alors, je préférais être une amie qui tâchait à la conseiller.
Et quels sont les films que, malgré tout, vous avez fait pour elle, alors c'est...
Moi, par exemple, j'avais fait pour elle... le premier film, c'était La Honorable Angelina. Et ça, c'était bien. Là, on était tout d'accord. Puis, j'avais fait pour elle une Anita Garibaldi. Et c'était un très mauvais film. De ce moment-là, j'étais très attentive à ce que je faisais sur le travail.
Mais vous en avez fait d'autres encore après,
oui,
quand même.
Oui, j'en ai fait d'autres. J'avais déjà fait un autre scénario qu'on n'a pas réalisé, qui était La Carrosse du Saint-Sacrement, que c'était pour Visconti. Mais ce n'est pas le scénario que Renoir a tourné. Puis j'ai fait pour elle, bellissima, puis un sketch que Visconti avait fait.
Ah, le fameux sketch de Noidone.
Noidone.
Où
et puis
femmes.
Un film qui pouvait être beaucoup mieux du résultat qu'on a eu. Et c'est Les Risate di Gioia avec Totò. Et puis j'ai toujours lu les scénarios qu'elle allait tourner ou fait un travail dans les coulisses. Car on était vraiment de grands amis.
Quel est le film d'elle que vous préférez ? Bellissima peut-être, non ?
Oui, naturellement. Comme il y a des choses qu'on dit, que c'est commun de dire que le champagne est bon ou que le caviar est bon, et puis ils sont vraiment bons comme ça. Il faut avouer que la chose la plus belle d'Anna, c'est Roma Città Aperta. Mm-hmm. Et Roma Città Aperta, j'ai vu l'autre soir, il y a eu par hasard, dans je ne sais pas quelle télévision, je vois, presque jamais la télévision. On a ouvert, il y avait la fameuse course de Anna. Et c'est toujours un choc, tellement une scène formidable, vraiment un chef-d'œuvre.
Elle est vraiment foudroyée par cette rafale de mitraillettes le matin même de ses noces. Mais alors, de ce fait, la scène que l'on voit toujours quand on parle de Rome ville ouverte, c'est vraiment toujours cette scène-là où elle crie Francesco en courant après le camion des Allemands qui emporte son fiancé.
Oui, il faut dire qu'elle est éblouissante et que les témoignages que l'on a sur les circonstances du tournage montrent qu'au moment du tournage de cette scène, elle avait atteint un niveau de participation extrême. C'est-à-dire que ce n'était plus une comédienne qui jouait le rôle de la veuve Pina qui allait être abattue le jour de ses noces, mais elle était devenue totalement le personnage. Quoi. Et il paraît que d'ailleurs, lorsqu'elle court après le camion et qu'elle est abattue, elle s'écroule avec tant de conviction qu'elle s'est blessée. Quoi.
Oui, elle s'est effectivement cassée le genou.
Elle s'est gravement blessée. Il faut dire aussi qu'elle avait à ses côtés un metteur en scène d'exception qui était Rossellini, qui était de surcroît à ce moment-là son compagnon dans la vie, que Rossellini sans doute privilégiait aussi son image dans la façon dont il dirigeait le film et qu'il essayait de lui donner vraiment un personnage à défendre avec le plus de conviction possible. La carrière d'ailleurs d'Anna Magnani est souvent marquée par ses rencontres privilégiées avec les metteurs en scène, qui ne sont pas d'ailleurs forcément des rencontres amoureuses, mais qui sont des rencontres d'une très grande intensité, quelque chose qui se reproduira avec Visconti dans Bellissima, avec Renoir dans Le Carrosse d'Or, par exemple.
Mm-hmm. Vous dites dans votre article donc que ça a été la chance, d'une certaine manière, d'Anna Magnani de pouvoir incarner un rôle dans lequel tout un pays s'est identifié. Mm-hmm. Mais finalement, pourquoi la Magnani plutôt que Marcello Pagliero, mm-hmm. qui faisait le chef de la résistance, mm-hmm. ou Aldo Fabrizi, qui faisait le rôle du prêtre, qui sont aussi des personnages vraiment très porteurs, d'autant plus que la Magnani elle-même disparaît finalement de ce film assez rapidement. Alors pourquoi ?
Bon, la Magnani, elle arrivait déjà précédée d'une certaine réputation. Aldo Fabrizi aussi, d'ailleurs, qui était déjà un comédien connu, qui jouait dans des revues, et qui incarnait plutôt d'ailleurs des personnages comiques. Peut-être que l'intensité de la souffrance qu'exprimait ce film, puisque c'est un film totalement dramatique, les trois protagonistes auxquels vous venez de faire allusion meurent. Pagliero meurt sous la torture, Fabrizi, le prêtre, est fusillé, et elle meurt abattue d'une rafale de mitraillettes en poursuivant le camion qui emporte son futur mari. Donc le film a ce signe totalement négatif, ce qui, par parenthèse, est assez exceptionnel, puisque quand on a fait des films sur la résistance, on a plutôt fait des films d'exaltation plutôt que des films dramatiques ou des films portant en eux une telle caractéristique de souffrance. Alors peut-être qu'une une image féminine exprimait mieux ce sentiment de la détresse, ce sentiment de la femme qui devient veuve et de la femme qui ensuite meurt. Et c'est peut-être sur elle que c'est cristallisé, plutôt que sur les figures masculines, qui de plus étaient duelles. Il y en avait deux, quoi. Donc, est-ce qu'on allait choisir le prêtre ou le militant communiste ? Le choix du prêtre ou du militant communiste était aussi peut-être une implication politique. Alors que la femme, elle pouvait être totalisante. Tous les Italiens qui sortaient de la guerre pouvaient se reconnaître dans les souffrances d'Anna Magnani, femme du peuple, veuve, mère de famille, amante. Elle exprimait une totalité. Et quand on a demandé aux gens de jouer ces rôles anonymes, de revivre en quelque sorte devant la caméra ce qu'ils avaient connu dans les années passées, tout ça s'est fait dans une spontanéité totale, quoi. On ne peut pas vraiment parler à propos de Rome ville ouverte d'une reconstitution des événements après coup. Les gens les ont quasiment revécus devant la caméra alors que ces événements faisaient encore partie de leurs souvenirs immédiats.
Oui, en plus c'est une histoire vraie.
En plus c'est en grande partie une histoire vraie, et la figure du prêtre est une figure authentique, et la figure de la femme interprétée par la Magnani est un peu la synthèse de toutes les femmes souffrantes de la guerre.
Dans Rome ville ouverte, je n'ai pas répété la scène de la mort. Avec Rossellini, on ne répétait pas. On tournait, c'est tout. Il savait qu'une fois préparée l'ambiance, je démarrais. Pendant l'action de la rafle, lorsque j'ai franchi la porte principale, tout d'un coup, j'ai vu des choses déjà vues. Car c'était le vrai peuple qui était adossé contre les murs. Les Allemands étaient de vrais Allemands sortant d'un camp de prisonniers. Rossellini avait préparé la rue d'une façon extraordinaire. Vous vous rendez compte que les femmes étaient pâles, rien qu'en entendant de nouveau les nazis causer entre eux? Cela m'a transmis l'angoisse que vous voyez sur l'écran. Terrible. Une telle émotion, je ne m'y attendais pas. Patricia Pistagnetti, vous l'avez connue, la Magnani, alors?
Je ne l'ai pas connue de personne. J'ai eu l'expérience extraordinaire de la voir à théâtre, quand elle jouait la Lupa et Medea. Et ça a été vraiment bouleversant pour moi. Et je rappelle ce que dit Eduardo, après la... Eduardo de Filippo, après la première de Medea, quand il va embrasser Magnani et il lui dit « Mais c'est merveilleux ce que tu as fait, tu ne sais pas ce que tu as fait. » Je pense de n'être pas tout à fait d'accord avec Eduardo dans ce sens que je crois que Magnani savait toujours très bien ce qu'elle faisait. Ça, c'est la caractéristique pour moi de Magnani comme artiste.
C'est-à-dire qu'au lieu d'être cette actrice purement instinctive, comme on la décrit très souvent, finalement, vous pensez que c'est plutôt une actrice intellectuelle, même d'après ce que vous avez écrit dans votre préface.
Oui, je rappelle quelque chose qu'elle a dit à Pierpaolo Pasolini pendant le tournage de Mamma Roma. Elle lui dit « J'ai étudié ton scénario 3-4 fois, 5 fois. Je connais désormais par cœur chaque ligne de ton scénario. » Et je crois que ça a été le costume de Magnani quand elle préparait un film, préparait un texte théâtral. Elle était toujours très consciente de celle qu'elle faisait et elle était aussi très curieuse. Elle voulait faire des choses différentes entre elles. Parce que moi, je rappelle ce que lui disait la critique italienne, qui c'était un peu ce que disait à tous les grands artistes du néoréalisme. Et la critique italienne, pendant les années 50 et 60, disait à ces gens-là, vous avez trahi le néoréalisme, vous faites des choses qui ne sont pas des choses si importantes comme les choses que vous faisiez il y a 10 ans, 15 ans. Et la critique ne comprenait absolument qu'il y avait une évolution de l'art, il y avait une évolution aussi de la société, et que les gens, le meilleur, s'interrogeaient sur ça. Et il était en train de chercher quelque chose de nouveau. Et Magnani était entre ces gens, c'est-à-dire qu'il n'était pas une actrice comme les autres qui attendait que quelqu'un venait lui offrir un scénario, quoi qu'il soit. Elle cherchait elle-même, elle allait par le monde chercher ce qu'elle ne trouvait pas dans son pays.
Luna tutta d'argento, luna piena di sentimento, che agli amanti fai tanti doni, dagli un piatto di maccheroni.
una luna, dagliene tanti, tanti, tanti rossi e fumanti, fa che piova fra lampi e tuoni, un diluvio di matti e roni. Finalmente crepa la panza e mi godo la vedovanza, canto e ballo oggi che trestoni, tarantella di maccheroni.
Mario Monicelli, vous êtes actuellement l'un des derniers grands réalisateurs italiens à avoir fait tourner Anna Magnani en 1960 avec Risate di Gioia. Comme actrice, comment se comportait-elle? Est-ce que c'était aussi difficile de la gouverner comme réalisateur, enfin en tant que réalisateur, que comme homme dans sa vie?
Non, dans sa vie, je ne sais pas, dans sa vie, c'était difficile de la gouverner, je pense, mais j'ai eu la chance de la gouverner. La vie. Comme actrice, non, l'actrice elle était très, très, très professionnelle. Elle savait très bien qu'est-ce qu'elle faisait, elle obéissait, on parlait, on discutait avant de ce qu'elle doit faire, mais non, elle est très, très docile, très, très, très bien, très disponible.
Et quand elle jouait, alors est-ce qu'elle jouait comme ça d'instinct? Est-ce que vous l'avez vue improviser? Est-ce que comment elle s'est comportée pendant?
Vous savez, elle jouait d'instinct. Non, elle faisait, elle semblait qu'elle jouait d'instinct. Elle savait très bien qu'est-ce qu'elle faisait. Elle s'est préparée là, longtemps chez soi, avant, etc. Puis, à un moment de jouer, oui, elle mettait quelque chose qui n'était pas écrit, mais qui appartenait à sa personnalité, à sa manière de s'exprimer, d'être soi-même.
Non sono più abituata a camminare tanto. Senta, le dica francamente, lei che ne dice, ci riuscirà mia figlia, la pieranno? Perché mi sono un po' scoraggiata. Così succede, senza una ragione, ti sembra che una cosa sia tanto facile, così naturale, e poi non ti sembra più possibile.
Depuis longtemps, je désirais tourner un film avec Anna Magnani, et puisqu'on l'avait désignée pour être l'interprète de Bellissima, j'ai accepté. Je tenais à faire une expérience avec un personnage authentique, auquel on pouvait dire des choses plus profondes et significatives qu'aux autres. Je voulais voir aussi quel rapport s'établirait entre moi, metteur en scène, et elle, la vedette, Anna Magnani. Le résultat a été très bon, car avec elle on peut travailler au hasard de l'improvisation. Anna Magnani possède un jeu nourri d'instincts populaires, qui n'a rien à voir avec le théâtre de métier. Elle sait se placer au niveau des autres et d'une certaine manière, elle sait amener les autres aux siens. J'ai compté avant tout sur cet aspect particulier et extraordinaire de sa personnalité. Luchino Visconti. Bellissima est aussi un autre film superbe de Visconti. Là, elle incarne vraiment un personnage de mère. Alors, c'est le...
C'est bellissime. Ça, c'est pas tellement le personnage d'Anna Magnani. Mais Anna elle-même, je veux dire, elle interprète un peu la petite bourgeoise, toute petite bourgeoise. Anna n'était pas une bourgeoise, absolument.
Elle était plutôt proche du peuple.
Oui, du peuple un peu zingara.
Un peu gitane, comme oui. Ça, sur les bords, oui. Mais quand même, dans le personnage de Bellissima, elle a un côté mère abusive, presque, puisqu'elle oblige cette pauvre petite fille à se présenter malgré tout dans
pour jouer. Mais c'est l'ambition pour la fille, elle pense qu'elle est très belle. Elle voit, comme tous les mères, voient très beaux les enfants, mais...
Et puis il y a cette scène pathétique où on la voit, où elle se rend compte que sa fille s'est couverte de ridicule et qu'on veut abuser d'elle d'une certaine manière en la faisant jouer de cette manière-là. Et, Et ça, c'est une très belle scène.
Si tu portes via la ragazzina, non mi vedi più. Sì, non mi vedi più. Porta d'aria. Tanto il secondo te con me sta male, no? Solo lui va bene, signor. Solo lui si sacrifica. Io la rovino. Tutto questo sapete perché? Perché voglio che mia figlia diventa qualcuno. Sì, voglio che mia figlia diventa qualcuno. Ce l'avrò sempre a suo diritto! Ma è un diritto, secondo te? Non deve diventare una disgraziata, mia figlia! Non deve dipendere da nessuno, non le deve piare il botte, come le pio io, no, non le deve piare. Non sapete i sacrifici che ho fatto, sora Rosa mia, per rimediare i soldi, a fare queste poche cosette. Le cose che mi sono fatte per tutta Roma, del nascosto di lui, per non toccargli i soldi, ma... E lui per ringraziamento che mi fa? Ma ammazza del botte, ma ammazza! Vattene! Vattene che non te posso più vedere! Vattene, mi ha rovinato, guardate! Mi ha rovinato, sono tutta un livido, no! Sta tutta un livido, sta guardando con gonfia, no, signora! Va via, ma che ti posso più vedere, va via!
Ho l'impressione che la Magnani ha été plus ou moins enfermée dans un rôle, enfin dans des rôles de Madone des Sept Douleurs, en fait, parce que au point que même la couverture du catalogue publié donc à l'occasion de la rétrospective du Centre Pompidou, c'est une Magnani souffrante qui apparaît.
Certes, mais c'est une Magnani qui exprime de façon très voyante la souffrance. C'est-à-dire, ce n'est pas une souffrance contenue, ce n'est pas une souffrance silencieuse, si vous voulez. Donc c'est vrai que l'exubérance correspond mieux, en principe, à la notion de comédie. Mais il y a aussi une forme d'exubérance qui correspond au drame. Je dirais même que le baroque, que l'on trouve beaucoup en Italie, notamment dans la statuaire, est quand même une forme de où la représentation de la Vierge, ou la représentation du Christ, ou la représentation de Sainte-Anne, sont des expressions de douleur, dans une surenchère d'attitude spectaculaire, de drapé dans le vêtement, d'abondance dans l'ornementation. Donc je crois que la Magnani, effectivement, a peut-être, tout compte fait, été une femme plus marquée sous le signe du malheur que sous le signe du bonheur, mais qu'elle a exprimé ça par une très grande extériorité de l'expression.
Avec aussi une grande sensualité.
Oui, une sensualité d'ailleurs qui est d'autant plus remarquable qu'elle ne passe pas par un physique de femme particulièrement belle. Quand on prend les comédiennes italiennes célèbres de l'après-guerre, qui sont des femmes évidemment plus jeunes qu'Anna Magnani, je pense à Gina Lollobrigida ou à Sophia Loren, sans parler de comédiennes qui sont arrivées encore plus récemment, bon, il y a en quelque sorte une beauté physique italienne qui passe par des formes très épanouies, qui passe par une régularité du visage que n'avait pas Anna Magnani. Et quand on voit des photos, parce qu'il faut dire aussi qu'Anna Magnani arrive au cinéma relativement tard, alors qu'on a parfois tendance à faire appel à des comédiennes qui ont 20 ans, Anna Magnani commence à tourner qu'elle en a 30. Ce qui est aussi une autre singularité de son personnage. Donc Anna Magnani n'appartient pas à cette typologie physique. Et je le répète, même dans des photographies qui la montrent jeune, on voit déjà que c'est une comédienne surtout de théâtre, une comédienne de revue, de musical, qui a un physique très attachant, mais dont on ne peut pas dire qu'il soit d'une beauté éblouissante. Et en contrepartie, elle va précisément imposer une personnalité qui est d'une très grande sensualité, mais d'une sensualité qui est précisément quelque chose de, comment dirais-je, d'exprimé à fleur de peau, à fleur de visage, et qui n'appartient pas à des formes de statut grec. Donc c'est peut-être une sensualité, il y a un érotisme, incontestablement, chez cette comédienne, qui d'ailleurs est souligné même dans la douleur, même dans la célèbre scène dont nous parlions tout à l'heure, de Rome ville ouverte, où quand elle tombe, les jupes sont relevées assez haut sur ses jambes, ce qui souligne en même temps le côté de profanation que constitue cette mort brutale. Donc il y a un érotisme de la Magnani, mais qui est un érotisme qui ne passe pas précisément par le cliché traditionnel de la jolie fille ou de la fille que l'on verrait surtout sur les couvertures de magazines.
Piangere il tuo violino tra le dita.
Dindo, sai ballare?
Pochetto. E cia cia cia.
Perché? E c'è, c'è, c'è. Cammina, via a ballar tango con tua madre, vieni. Ma che te vergogni? Andiamo. Non ti vergogna. Tu guarda a me, sta attenta al capo. Ecco, guarda a me. Mo di qua. Guardami i piedi. Suona, suona per me. Mani. Dai.
Violino gigano.
Il torso. Attenta quando metti i piedi. Guarda qua. Questo è Ramversé, eh? Hai visto che gli hai fatto? A spirolone.
Questo tango d'amor fa tremare il mio cuore, oh violino gigano.
Suona solo per me, oh violino gigano. Ah, conosci sta canzone?
No, non mi sentivo.
Ti piace?
E ieri.
La 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 la, sta canzone. E sapessi chi la cantava?
E chi la cantava? Mio padre.
E tu come lo sai?
E chi ci ho capito?
Ah. Allora è vero che vai già a donne.
Sì, ma sono loro che vengono presso a me, ma a me che me frega.
A proposito di tuo padre, indovina che mi sono sognata stanotte. E so, sognata che eravamo in Grecia, in mezzo a tutte quelle montagne là. Prima c'era un sacco di fanga, poi vado su un montarozzo e lì era pieno di rosmarini e una voce che mi chiamava. A mamma ro, via qua. Era la voce di tuo padre che mi chiamava. Pensa un po'. Sì, io cammino appresso a sta voce di tuo padre, e a un certo momento dall'altra parte del montarozzo indovina chi ti incontro.
Chi?
A te. Incontro a te, ma eri una guardia.
E che t'ho fatto?
Me volevi carcerare.
E te allora?
Io me la so pelata. Mi sono messa a correre come una matta. E tu guarda sto malandrino, me voleva carcerare. Tu madre volevi carcerare.
Ma il mio amore è lontano.
Oh, sei diventato proprio bravo. Mo ti insegno una finezza, attento, mo fammi il caschetto, ecco così. Ah! Oddio!
Ammazza che caschetto che ho fatto!
Justement, à propos de cette sensualité, Jean-Gilles Mastroianni, par exemple, qui a eu l'occasion de tourner avec elle tout à fait à la fin, disait que, alors qu'elle avait déjà une soixantaine d'années, jamais aucune partenaire ne lui a donné la chair de poule, finalement, à jouer avec elle.
Le témoignage de Mastroianni est passionnant, parce que bon, Mastroianni a serré dans ses bras un nombre impressionnant de comédiennes. Et c'est effectivement une rencontre tardive aussi. Ils n'ont finalement joué ensemble que dans ce film de Janine et du début des années 70. Et c'est vrai que Mastroianni a été frappé, comme il le dit lui-même, par la sensualité de cette femme, sur laquelle finalement la vie ne semblait pas avoir tellement de prise. Qui dans le fond n'avait jamais été une jeune première, et qui donc a pu d'emblée être une femme, disons, déjà sortie de la première jeunesse, mais qui après y est restée pratiquement jusqu'à la mort, et qui a gardé ce pouvoir de séduction sur les hommes, même si, d'après ce que l'on sait, sa vie amoureuse a loin d'avoir été un succès. Quoi.
Oui, c'est même été assez tragique.
Assez tragique, oui. Bon, en plus, c'est une femme qui était très très attachée à son fils, que je crois que vous avez rencontré, et qui a dû vous donner, de ce point de vue, le témoignage qu'il convenait de donner.
Dans ce temps-là, les femmes restaient à la maison et les hommes allaient travailler, normalement. Dans le cinéma, la femme, normalement, avait ou un mari ou un amant producteur, et elle faisait des films, non ? Dans le cas de ma mère... Ma mère travaillait, elle devait, elle, faire tout. C'était l'homme, la femme de maison, c'était tout dans l'ensemble. Alors, c'était normalement pas une mère normale, je veux dire. Elle avait ses horaires, elle avait ses engagements. Alors, sa présence n'était pas une présence comme normalement à une femme dans une maison.
Il habitait où
dans un vieux palais de Rome ancien, en haut, en Attico, en dernier étage, où on voyait toute la ville. C'était très beau. Mm-hmm.
Et elle sortait souvent comme ça pour se promener pour elle-même. Mais
oui, je veux dire, c'était une ville tellement incroyable. Par exemple, elle allait porter les chiens à Villa Borghese. On allait, moi et elle avec Suso, avec des amis, à 2 heures de la nuit. Une fois, on allait dîner le soir et puis on prenait ce qui nous avançait et on le portait aux chats, non, les fameux chats de Rome, non? Et on allait à 2 heures de la nuit, avant de rentrer chez nous, on savait où il y avait des endroits. On s'arrêtait, on donnait à manger aux chats, on se fumait une cigarette, on parlait.
Et quand Anna Magnani sortait, je suppose que tout le monde la reconnaissait, il la saluait.
Oui, il la saluait, mais il la laissait. C'était un contact très humain, il l'appelait par nom, il la saluait, il scherzava, comme on dit.
Il plaisantait.
Il plaisantait avec elle, avec beaucoup d'affection. Affectuosité, oui, mais pas comme on la voyait. Il se identifiait en elle, peut-être. C'est une réduction, ce qu'on voit dans les films, de son caractère. Ils ont pris toujours le même genre de rôle, oui, de caractère, de personnage, parce que c'était facile, je crois, parce qu'elle était sortie avec un genre de personnage qui a eu beaucoup de succès dans ce rôle-là. Alors, ils ont continué toujours à la voir dans le même rôle. Mais
vous voulez dire qu'on l'a un peu enfermée dans un personnage, alors?
Oui, on l'a beaucoup enfermée, selon mon avis. Parce que, par exemple, selon moi, elle aurait fait très bien des films musicaux, mais ils ne lui ont jamais proposé. Elle pouvait faire aussi des films comiques. Elle n'en a fait peu, et ces peu, ce n'était pas entre les meilleures choses qu'elle pouvait faire. Elle provenait de la revue en Italie.
Oui, c'est ça, parce qu'elle avait effectivement commencé par des spectacles de revue, un peu ce qu'on appellerait, nous, le musical, en fait.
Et que c'est un mix de musical, de comique, un peu, disons, à la feuille d'eau, comme ça, un peu. C'est une grande expérience pour les acteurs, un spectacle en Italie, après la guerre. Elle a fait 2 ou 3 spectacles de ce genre-là, mais ils n'ont jamais vu en quoi ils pouvaient la utiliser. Et ils ont toujours continué en Italie et à l'étranger aussi, je veux dire, parce que aussi les films américains, c'est toujours la même sauce. À lui faire faire des rôles de femmes violentes, de femmes toute passion, je veux dire.
Un peu tragique, plutôt.
Oui, oui. Aussi mais d'ailleurs, dans le théâtre, elle a fait quand même. Et dans le théâtre, c'était très bien. Elle a eu un très grand succès, mais c'est toujours la même chose.
Visconti, pourtant, lui avait donné une possibilité avec ce qu'elle a joué dans Noi Donne, et quand elle joue ce personnage, elle raconte une histoire drôle, en fait, d'une mésaventure arrivée avec un taxi qui veut lui faire payer une amende parce qu'elle porte un chien.
Mais c'est un épisode vrai qui lui est arrivé à elle, je veux dire. Mais par exemple, moi, j'aime beaucoup l'épisode de Visconti, parce que je trouve que c'est un genre qu'elle n'a jamais pu faire. C'est un épisode très amusant, rien de spécial, je veux dire. C'est un épisode sur rien, mais ça tient, on le voit volontiers, je trouve.
Oui, parce qu'en fait, le taxi veut lui faire payer une amende parce qu'elle porte un chien. Alors lui n'a pas compris le règlement. Et finalement, elle appelle un policier, puis un deuxième, puis on la retrouve au poste de police où elle convoque tout le monde, le brigadier, tout ça pour ne pas payer l'amende.
Dite un po', che volemo fare? La volemo risolvere sta cosa della lira qua, eh?
Ne ho ragione io.
Lo vedete quanto è indisponente, eh? Come fate a dire che avete ragione, che il brigadiere ancora deve parlare?
Tanto già.
Insomma, ne sapete più di lui. Mettetelo al posto suo, allora.
Ma signor, io ci ho perso pure la voce.
Io me ne frego, scusate.
Prego, prego.
Se avete perduto la voce. Perché sono tre quarti d'ora che mi state facendo perdere tempo. Si tratta di stabilire che non avete ragione. La lira non vi spetta, è inutile. E se voi insistete, io prendo il numero del vostro taxi e la faccenda non finisce qua. Perché io ho fretta adesso, me ne devo andare.
Ah, pure.
Pure, pure.
Adesso io non ho premura. Ma che stiamo a scherzare? Te danno del lato, dell'approfittatore. Io che non mi sono mai approfittato di niente e che sono incensurato, un altro più incensurato di vent'anni da trovare.
Non si trova, per carità.
Gli sconti se mi sto a chiedere. Io e Desanè ne sono. Siete grandi amici. Tre grandi amici. E l'avevo meme. Gardeva Luchino da sa maison lorsque pendant la guerre. C'était très dangereux de le prendre et puis on l'a qui nous était arrêté par les Allemands. Donc il s'aimait beaucoup. Mais Luchino était président de la commission à Venise lorsqu'il y a eu, on a présenté les films de Camerini où elle faisait la sœur de charité et elle n'a pas eu les prix et Visconti lui-même n'a pas appuyé sa candidature. Elle était tellement fâchée et on lui disait bon, mais il trouve que c'est pas bon et il a raison. Ah mais nous sommes amis, mais c'est pas une raison, ça, c'est pas la mafia. C'est... Alors il était tellement fâché que pendant 4 ou 5 années, ne saluait même pas. Puis ils se sont rencontrés dans un antiquaire et on a dit, oh, c'est assez. Bon, c'est fini.
Quante macchine venivano là, quanta gente tu affacciata a stare in fiera. Quanta folla di maschiette e di gagà, quante radio nelle macchine a sonare.
E come amica, elle était aussi, come on la voit dans les films, très généreuse, sì, donnant beaucoup.
Sì, sì, sì. Come amica, elle était très, très, très généreuse, ma elle demandait beaucoup des amis. Elle était toujours suspectée d'être pas la première dans les amitiés. Et c'était un rapport qui était donné à voir, etc. Et tu m'as donné des plus, tu m'as donné moins. Insomme, c'était un peu lourd. Mais très, très, très satisfaisant, très, très riche. Oui.
Ci scagliamo sempre specialmente coi taxi, con le macchine CD, sempre a tentar pizzardone, che a cavallo era imponente come un re.
Vous la voyez surtout comme un personnage donc qui a toujours voulu être aimé et qui finalement se retrouve toujours seul.
Mais elle était toujours comme ça dans la vie, un peu. Parce qu'elle était avait une très grande personnalité, mais elle était très lourde, elle voulait imposer continuellement. Alors les hommes qui avaient des rapports avec elle, après peu de temps, s'enfuient. Alors elle restait toujours seule, à la recherche d'un autre, à lequel elle imposait encore sa personnalité, et il s'enfuyait, toute sa vie était un peu comme ça. Elle n'était pas une femme heureuse.
Resta a casa e s'accarezza lo strumento. Ma che luna, ma che luna c'è stasera. Veder mondo chi s'affaccia a star insieme. Da San Pietro all'altre cupole laggiù, fino al mare più lontano sempre più. Che mi importa se quassù non c'è nessuno.
Mais on en garde surtout en France, j'ai l'impression. l'image d'un personnage sombre, enfin en plus bon, les brunes, c'est ce qui joue aussi sur le registre, mais c'est un peu la louve sombre, très attachée, très passionnée, très, très vulnérable aussi à cause de ça. Et c'est pas du tout le personnage, disons, qu'on trouve classiquement dans le cinéma italien.
Oui. Mais ça aussi, c'est peut-être une autre des caractéristiques de cette femme et de la fascination qu'elle a pu exercer sur le public. C'est-à-dire de faire toujours percevoir, même dans les moments d'exubérance extrême, ou dans les moments où le personnage semble le plus fort, qu'il y a toujours une dimension de vulnérabilité, quoi, qui fait que la violence n'est jamais perçue, ou l'exubérance, ou l'autorité, ou la faconde, ne sont jamais perçues comme le tout du personnage, mais toujours comme une facette d'un tempérament essentiellement ambigu, quoi.
Et peut-être que l'un des rôles où on retrouve le mieux ce personnage très ambigu, c'est peut-être effectivement dans le Carrosse d'or, dont nous n'avons pas encore parlé vraiment, mais où le personnage de Colombine, de Camille, joue vraiment sur tous les registres en même temps. C'est un film où on passe tout de suite du rire à l'émotion, et c'est l'émotion, les pleurs presque, c'est vraiment admirable.
Oui, c'est peut-être moi j'aurais tendance à considérer que c'est le plus beau film d'Anna Magnani, même si elle est également admirable dans le film de Rossellini, même si elle est admirable dans les films de Visconti, dans Bellissima et puis dans Nous les femmes, où elle est étonnante justement de brio. Mais malgré cela, je crois que c'est sous la direction de Jean Renoir qu'elle est peut-être le plus la comédienne, avec un C majuscule, Anna Magnani forever. Enfin.
Le calage pour moi. Oh. Mamma mia! Pardonnez-moi. Alors s'il est à moi ce joli calage, je dois essayer de faire comme la duchesse. Votre Altesse veut-elle me faire l'honneur de prendre place?
Ah non.
Non.
Grave erreur, ma chère. N'oubliez jamais qu'aux yeux d'un homme, toute femme est une reine. Et n'importe quel homme, quel que soit son rang, n'est que son serviteur. Le grand roi Louis XIV, qui était allié à ma famille, indirectement d'ailleurs, ne croisait jamais une chambrière dans ses appartements sans balayer le parquet de la plume de son couvre-chef.
Mais vous êtes le roi ici.
Et il n'importe. Asseyez-vous la première.
Oh, merci.
Non, là.
Mais c'est pour vous.
Non. Là, j'attends votre permission.
Bien. Voulez-vous, Altesse, me faire, voulez-vous me faire? Ferdinand, assieds-toi.
Renoir a d'emblée pensé à Magnani pour le film. Renoir voulait faire ce film avec, et on pourrait dire pour Anna Magnani, dans lequel il ferait en quelque sorte un discours de la méthode sur ce qu'était sa conception de la vie et du théâtre et de l'étroite imbrication qu'il y a entre les deux. Et comme Anna Magnani était déjà une comédienne qui, dans sa façon d'être, n'avait pas créé de véritables frontières entre la scène et la vie, entre sa manière de jouer ses personnages et sa manière d'être elle-même, elle était admirablement indiquée pour jouer dans le film. C'est un des rares films d'ailleurs où elle est en couleur, enfin, c'est un film d'ailleurs qui résiste fort bien, enfin du moins jusqu'à présent, puisque vous savez que les copies malheureusement de films en couleur vieillissent très mal. Les copies qu'on peut voir encore maintenant sont des copies qui sont très très belles, et elle est dans cet univers totalement fabriqué, puisque le film est entièrement tourné en studio, elle est d'un naturel absolu. Et je crois que ça a été une de ces rencontres miraculeuses, il s'en produit assez peu finalement, entre un metteur en scène et son interprète.
Ah, un admirateur. Qui est-ce?
Signorita Camilla.
Vous?
Je vous invite après la représentation. Je joue bien de la guitare et vous chanterez pour moi.
Et je dois chanter aussi pour les taureaux.
Vous avez entendu parler de moi, signorita? Ramon, le toréador. Les gens m'adorent ici. C'est moi qui lance la mode. Oh. Si je parle de vous, tout le monde voudra vous voir.
Sans rire. Oh, c'est gentil à vous. Vous venez de me faire rater l'entrée en scène et vous osez encore faire de l'esprit. Allez-vous-en. Allez, oust, fuori dai piedi, burattino che non siete altro.
Vous comprenez l'italien?
Non.
Tant mieux, cher monsieur. Un gentilhomme demande à se voir un instant, Camilla.
Ma che gentiluomo, un cafone che ha disturbato lo spettacolo tutto il tempo. Mettilo fuori!
Elle est nerveuse.
Oh, ça n'est rien. Je fais le même effet à mes taureaux. Souvent, ils font comme ça aussi, surtout les bêtes de race, celles que j'aime combattre et mater.
Va traire tes vaches!
Camilla, laisse-moi faire, veux-tu? Allons, monsieur, allez-vous-en. Vous ne voyez donc pas que vous l'ennuyez?
Je l'ennuie? C'est une insulte, monsieur. Et vous m'en rendrez raison.
Mais on a l'impression aussi qu'elle joue presque non seulement son propre rôle, mais certains éléments font penser à sa propre vie. C'est le, elle est courtisée par trois personnages en même temps qui sont d'égale importance finalement. Et puis peu à peu, elle s'écarte des trois, elle retourne sur les planches comme étant sa véritable vocation et sa vraie place.
Oui, sa vraie place, oui, qui est celle d'ailleurs qu'elle reprend à la fin de Roma, quand Fellini la rencontre et l'interpelle. Elle l'envoie dormir et elle s'enferme chez elle. C'est effectivement quelqu'un qui, finalement, au-delà d'une vie sentimentale orageuse et riche de rencontres, aura été quelqu'un de fondamentalement solitaire. D'où ce lien viscéral aussi à son fils, qui est l'expression de ce qu'elle n'a pas rencontré, mais pouvait-elle le rencontrer compte tenu de ce qu'elle était, de l'homme qui aurait pu vivre à ses côtés.
Et on la présente toujours avec un caractère aussi tellement volcanique que ça semble très difficile.
Oui, y avait-il sur Terre un homme probablement pas, puisqu'en fait le problème, il n'était pas, à mon avis, il n'était pas chez les partenaires, il était chez Anna Magnani. Mm-hmm. Pouvait-elle s'attacher autrement que dans une relation passionnelle et donc d'une certaine façon condamnée à ne pas être éternelle?
Mesdames et messieurs, pour célébrer la victoire de Camilla sur les intrigues de la cour, j'aurais voulu vous présenter un mélodrame dans le style italien. Mais Camilla est en retard. Camilla! Camilla! En scène! Tu n'es pas faite pour ce qu'on appelle la vie. Ta place est parmi nous. Les acteurs, les acrobates, les mimes, les clowns, les saltimbanques. Ton bonheur, tu le trouveras seulement sur une scène. Chaque soir, pendant deux petites heures, en faisant ton métier d'actrice. C'est-à-dire, en t'oubliant toi-même. À travers les personnages que tu incarneras, tu découvriras peut-être la vraie Camille.
Felipe. Ramon, le vice-roi, ils sont partis, disparus, ils n'existent plus.
Disparus, perdus au milieu du public, tu les regrettes?
Un peu.
C'est impossible de ne pas se mêler à ce qui lui arrivait pendant sa vie, c'est-à-dire des choses plutôt tragiques, plutôt bouleversantes. Et parce que je pense que Magnani, c'est sûrement une femme qui a commencé quelques dizaines d'années avant la lutte, peut-être pas d'un point de vue politique, pas d'un point de vue social, mais la lutte personnelle d'une femme contre les préjugés de la société, et en ayant une vie très difficile, une vie très exceptionnelle parmi les femmes de son époque.
C'est-à-dire que selon vous, elle aurait aussi incarné une sorte de moment d'émancipation de la femme, alors aussi.
Ben, c'est une... Oui, elle était une femme émancipée, elle était une femme libre, c'est ça. Elle était une femme qui a vécu pratiquement sans homme, c'est-à-dire qu'elle aimait sûrement les hommes, mais elle savait qu'on devait à un certain moment vivre sans homme. Et elle a vécu tout ça avant que ça fût normal. Et je rappelle une chose qui dit Steve Harvey sur son article pour le livre. Il dit Sophia Loren, elle avait son mari, le producteur Carlo Ponti, qui se battait pour sa carrière. Magnani, elle n'avait personne qui se battait pour sa carrière. Elle était toute seule, hein. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'elle était seule dans la vie et seule dans sa carrière.
Le 11 avril 1953, à 8h du matin, je fus poussé hors de ma tanière par le producteur Sandro Pallavicini qui était arrivé avant moi à New York par avion. « Courage, Anna, donne-moi ta main, on va les affronter, » dit-il. « Et n'aie pas peur, ils sont très nombreux. » Une multitude de reporters et de photographes étaient déjà montés à bord de l'Andrea Doria. Et le festival commença. Anna, un sourire, des flashs. Anna, donne le bonjour à New York. Encore des flashs. Anna par-ci, Anna par-là, Anna, Anna. On me donnait des ordres, gentiment, mais cependant des ordres. Anna, ils veulent que tu montres tes jambes. Ils veulent que je fasse quoi ? Demandai-je, stupéfaite. Ces photographes ne m'ont pas bien vue, me dis-je, sinon ils n'auraient pas demandé. Non ! Et celui-là fut un ordre que je refusais.
Elle est allée aux États-Unis la première fois, c'était pour présenter Bellissima.
Oui, elle a été là-bas pour présenter Bellissima de Visconti. Mais on avait déjà offert des choses à elle, mais elle refusait toujours. Elle disait, j'ai toujours de mal à quitter mon fils, à quitter ma ville, à quitter l'Italie. Et aussi, elle avait une peur terrible de l'avion. Alors, il y avait des problèmes. Mais en tout cas, elle a décidé, après elle a décidé d'aller parce qu'il n'y avait plus de choses trop intéressantes à faire en Italie. Après Bellissima, après Siamo Donne, après Renoir et toutes ces choses-là, elle a décidé d'accepter l'offre de Tennessee Williams, qui avait écrit pour elle le rôle de Serafina delle Rose dans La Rose tatouée. Et elle est allée là-bas, et là-bas elle a vraiment trouvé que les gens étaient crazy, comment dire, elle était folle,
un peu fou
pour elle, vraiment, hein. Il y avait tous ces grands stars comme Bette Davis, comme Judy Garland, elle rappelle qu'il voulait la connaître, qu'il lui allait rendre hommage, ça a été...
Elle est devenue effectivement très amie avec Bette Davis en particulier.
Oui, c'est... peut-être il y avait aussi un feeling...
Et cette partie américaine semble lui avoir laissé effectivement plutôt des bons souvenirs d'après ce qu'elle raconte elle-même. Enfin, elle a découvert un monde tout à fait différent.
Oui, elle a aussi travaillé avec beaucoup d'aise parce qu'elle dit qu'au commencement, il y avait des problèmes parce qu'elle pensait de devoir s'adapter à les règles hollywoodiennes. Au contraire, elle raconte comme Al Wallis, le producteur, Tennessee Williams, l'auteur, et Daniel Mann, qui était le metteur en scène de Rose tatouée, il lui dit à un certain moment, Anna, tu dois faire Anna. Tu dois être Anna, c'est pour ça qu'on t'a appelé et c'est ça qui est la clé de ton succès et de ta grandeur. Et alors, elle raconte qu'elle a pu travailler comme elle voulait et comme elle travaillait partout. Alors, je crois qu'elle a été sûrement très heureuse aux États-Unis de ce point de vue. Je crois aussi qu'elle a eu de la mélancolie parce qu'elle avait un fils en Italie, elle avait ses animaux en Italie, elle avait sa villa sur la mer. Sûrement, elle voulait retourner, elle est retournée. Mais d'un point de vue professionnel, je crois qu'elle a été pas satisfaite complètement dans son pays.
I can't do it.
Don't wrong. I love you. I love you. No.
Joya, listen to me. You're not listening to me, Joya.
It's wrong, no.
Joya.
It's not wrong. You love me. It's not wrong, please, baby.
Can't stand to look at you.
No, Bennett! No, I can't do without you, Bennett! No, Bennett!
chansons que je préfère, c'est Wild is the Wind.
Car sauvage est le vent, on dit en
français. De George Cukor avec Magnani, avec Anthony Franchose, avec ce sud des États-Unis. Ça, c'est un peu. Je l'aime comme j'aime des autres mélos flamboyantes américaines des années 50. Alors, en pensant qu'il y avait aussi Anna Magnani dedans, ça vraiment la perfection.
Même si les trois films américains d'Anna Magnani ne sont pas toujours appréciés en Italie, elle reste donc la première actrice italienne à décrocher un Oscar en 1956 pour le personnage de Serafina dans La Rose tatouée. Pendant cette période américaine, de 1956 à 1960, cette romaine qui ne peut vivre longtemps sans sa ville fait plusieurs fois le va-et-vient entre les États-Unis et Rome, où elle tourne aussi Suor Letizia de Camerini et Risate di Gioia de Mario Monicelli. Avec Monicelli, c'est un retour vers la comédie à l'italienne, un souvenir de ses premières apparitions sur les scènes romaines de l'avant-spectacolo. Elle joue le rôle d'une figurante de Cinecittà qui, le soir de la Saint-Sylvestre, ne trouve personne digne d'elle pour fêter l'année nouvelle, à part un autre figurant, interprété par Toto, Mario Monicelli.
Alors, moi, je pensais de voir, de reconstituer la couple qui avait eu un très grand succès au théâtre en Italie, et puisque ce scénario donner l'occasion pour mettre ensemble elle et Toto, et j'ai proposé à elle de faire ce scénario.
Et vous l'avez fait jouer en blonde en plus.
Oui, je l'ai fait jouer en blonde, mais surtout elle y tenait à être. Vous savez, avec la Magnani, elle est très professionnelle, très brave comme actrice. Elle répondait toujours très bien à. Mais elle avait un grand problème dans la tête, d'être jeune et belle. Et alors, il faudrait toujours travailler beaucoup autour de son visage. Elle aimait, alors, elle voulait être blonde. Moi aussi, j'étais d'accord pour changer un peu les choses. Blonde, belle, etc. Mais la couple a bien fonctionné, alors. On l'a aimé beaucoup, le film.
Et vous, Mario Monicelli, qui travaillez toujours donc avec beaucoup d'acteurs, est-ce que vous avez vu quelqu'un comme la Magnani se développer au cinéma?
Ben, vraiment, non. Comme la Magnani, non, parce que la Magnani avait ces grandes choses qui c'est très difficile. Elle, à mon avis, elle n'était pas une très grande actrice. Elle avait une très grande personnalité. Cioè, une personnalité qui se présente deux ou trois fois dans un siècle. Mais elle était toujours la même. Était toujours la Magnani, avec la main sur la, ça, qui criait, qui faisait, etc. Mais il ne pouvait pas jouer beaucoup de choses en dehors de la Magnani, de soi-même. Et ça était très grand, parce qu'elle avait cette personnalité qui s'imposait sur l'écran. Elle était vraiment imposante.
Non, la Magnani joue son propre rôle, joue son propre, en tout cas son propre tempérament. Son propre rôle. On a parfois hésité sur le caractère populaire d'Anna Magnani. Était-elle une femme du peuple? En fait, ce n'était pas une femme du peuple, mais c'était quelqu'un qui avait su complètement absorber le sentiment populaire de Rome. C'est d'ailleurs, quand on dit Anna Magnani italienne, on devrait presque dire Anna Magnani romaine, avec toute l'exubérance, tout le don de soi, tout le cœur, dans le fond, qui peut caractériser ce peuple de Romains.
D'autant plus qu'elle apparaît dans deux films majeurs qui incarnent vraiment Rome. L'un, c'est Fellini Roma, et l'autre, c'est Mamma Roma, justement, de Pasolini.
Oui, Mamma Roma, c'est un peu la synthèse de sa fin de carrière. Le tournage ne s'est pas toujours très bien passé avec Pasolini. Je crois qu'il y avait deux registres expressifs très différents qui ne se sont pas toujours rencontrés, en tout cas au plan humain, ce qui est d'ailleurs une des particularités peut-être aussi de ce film. En même temps, il y avait une formidable admiration de Pasolini pour Anna Magnani. Les cinéastes de la génération de Pasolini, c'est-à-dire les cinéastes qui ont commencé à tourner au début des années 60, sont des gens qui ont snobé Magnani. Comme de même, ils n'ont que rarement fait appel à des comédiens des générations antérieures. Pasolini est quelqu'un qui a eu des intuitions géniales. C'est-à-dire quelqu'un qui a perçu que dans le potentiel de comédien d'avant le moment où lui-même arrive au cinéma, il y avait des gens étonnants, quoi. Et ce qui s'est produit avec Anna Magnani s'est également produit dans un autre registre avec Toto, où il a également eu l'idée d'aller demander à Toto de faire des films qui étaient très différents de tout ce qu'il avait fait jusque-là. Alors avec Anna Magnani, il y a donc cette admiration qu'il est à peu près le seul à exprimer, et surtout à mettre en œuvre, parce que quand quelqu'un est sur la fin de sa carrière, tout le monde se dispute pour savoir qui dira le plus de bien, qui tiendra les propos les plus admiratifs vis-à-vis de la Magnani. Mais tenir des propos admiratifs est une chose, faire travailler les comédiens en est une autre. Le cas de Fellini, d'ailleurs, à mon sens, appartient au même type d'attitude, à savoir que dans Roma, il lui donne une minute d'écran, comme, dans le fond, s'il voulait se faire, lui qui a si souvent mis Rome à l'écran, comme s'il voulait se faire pardonner de ne pas lui avoir offert un vrai rôle dans un de ses films.
Pendant longtemps, je n'ai pas su comment me comporter avec Anna Magnani. Elle me semblait vulnérable et compensait sa fragilité par une arrogance excessive. La Magnani que je préfère n'est pas celle qu'on voit habituellement. Elle aurait pu aller plus à fond dans un type de personnage qui se promène aux limites de la folie, des personnages de bouffons, de clowns. On le voit par exemple dans Le Miracle de Rossellini, dans son rôle de gardienne de chèvre simple d'esprit qui se croit enceinte par la grâce divine et donc miraculée. Son interprétation est saisissante. Pour moi, à part dans mon film sur Rome où elle fait une apparition, d'ailleurs sa dernière au cinéma, je ne l'ai pas fait jouer Anna Magnani. Ça ne s'est pas trouvé. Federico Fellini.
Donc je crois qu'il y a de la part du cinéma italien, plus ou moins bien exprimé, un peu de mauvaise conscience vis-à-vis de la Magnani. Un peu de mauvaise conscience finalement de lui avoir trop souvent donné des rôles dans des films mineurs et ne pas lui avoir offert davantage les très grands rôles qu'elle pouvait interpréter. Donc la rencontre avec Pasolini, qui est peut-être le dernier grand titre du travail d'Anna Magnani dans le cinéma italien, c'est vraiment un peu la synthèse de son art. Et vous savez que un des éléments de l'opposition entre le metteur en scène et la comédienne tenait au fait que Pasolini attendait de la Magnani des plans courts. La Magnani était plutôt habituée à donner des répliques, à se lancer dans des tirades assez longues, qui correspondaient d'ailleurs à son tempérament. Et il y eut là des difficultés, en ce sens que même lorsque la Magnani avait une réplique assez longue, Pasolini ne la tournait pas en continuité, quoi. Il la coupait en plusieurs plans. Par contre, pour lui permettre en quelque sorte de donner le grand récital dont elle était capable, il y a au début et à la fin du film les deux très célèbres travelling arrière où la Magnani avance vers la caméra, rencontre un certain nombre de personnages qui entrent dans la scène puis qui repartent. Et les deux longues séquences se répondent parfaitement. Celle du début, c'est la Magnani en gloire, c'est la Magnani heureuse, qui dit toute sa joie de vivre, et le travelling final, c'est après la mort de son fils, ou au contraire, c'est une femme détruite qui avance vers la caméra.
Questa è Nicola, e questa è Regina, la snaturata, sapessi quello che fa.
Dillo, dillo, non te vergognare, tanto qui siamo tutti de bocca buona.
Fa la vita, fa.
Ma che è sta vita?
Batte, ecco che è.
Beata lei.
Ma guarda della quanto è caduccia. Oh, ma che te vergogni? Clementina, l'hai capita che fa con questa? L'hai capita sì o no?
Et pour vous, la Magnani, elle a incarné une certaine image de Rome aussi?
Ben oui, si. Elle incarne cette image populaire, plébéienne. Mais c'est celle qu'elle refuse. À un certain moment, elle a commencé à refuser. Elle voulait être la, comment on dit, la Sarah Bernard romaine. Mais elle n'était pas ça. Elle était la Magnani. Mm-hmm. Avec beaucoup des explosions intérieures. Avec beaucoup, mais toujours plébéien.
Ci ho visto morire uno l'altro giorno così. Ma che ci vuoi per insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
A mamma Roma, facciate una bella cantata dei cori.
Chi la canta?
Ma la malla, mamma Roma.
Fior de gaggia. Quando canto io canto con allegria. E se io dico tutto rovino sta compagnia.
Mais Jean Gilly, vous disiez que la Magnani incarnait une certaine image de Rome, enfin qu'elle était vraiment la romaine. De quelle manière exactement?
Ben d'abord, c'est quelqu'un qui avait un attachement viscéral pour cette ville, qui y a toujours vécu, mis à part bien sûr ses voyages aux États-Unis, ou ses tournages, parce que c'est quelqu'un qui, en dehors des États-Unis, a peu tourné hors d'Italie. Même le Carrosse d'or a été tourné à Rome. Il n'y a que le Magot de Josepha, le film d'Otan Lara, qu'elle est tournée en France. Pour le reste, donc finalement, ses absences de Rome étaient peu nombreuses. C'est quelqu'un qui... Rome est une ville à la fois secrète et en permanente représentation. Quoi. Et ça, je crois que c'est un des aspects aussi de la Magnani, que d'être à la fois une femme qui avait toute une vie privée, peu connue. C'est quelqu'un qui n'accordait aussi au travail que la place devant lui revenir. C'est quelqu'un qui, par exemple, vivait beaucoup la nuit, qui d'ailleurs s'y livrait à des pratiques des plus anecdotiques, à savoir par exemple aller nourrir les chats, et qui est aussi alors une figure, la gattara est une figure romaine, le gatto c'est le chat, et la gattara c'est la femme qui nourrit les chats, quoi. Et la Magnani consacrait, il y a d'ailleurs là-dessus, je crois que c'est Tennessee Williams qui raconte un de ses séjours à Rome, où après le restaurant, la Magnani se fait donner les reliefs du repas par le restaurateur, et ils vont ensuite dans différents lieux de la ville donner à manger aux chats, quoi. C'est quelqu'un aussi qui a cette faconde, qui est aussi un aspect de la romanité, cette aisance verbale, ce franc-parler, qui peut d'ailleurs parfois être à la limite de la vulgarité, mais qui est précisément rattrapé par la manière de dire. Les mots seraient vulgaires, la façon de les dire permet de sauver les choses.
Oui, et puis une des armes, c'est l'insulte aussi. C'est vraiment de renvoyer à quelqu'un son portrait en négatif d'une manière assez cruelle aussi.
Oui, mais c'est une femme qui avait son franc-parler. C'est une femme qui est célèbre aussi pour ses disputes. C'est une femme qui est célèbre pour ses crises amoureuses. C'est une femme quand, par exemple, Rossellini la quitte pour Ingrid Bergman, les colères publiques d'Anna Magnani, ils sont célèbres sur les plateaux, dans des lieux publics. C'est quelqu'un qui était extrêmement expansif, qui avait une force de conviction extrême. Quand même Rossellini tourne Stromboli, elle commande à Dieterl de la diriger dans un film qui se veut en quelque sorte la réplique,
Oui. Et
qui s'appelle
Vulcano.
C'est tout de même quelque chose qui, peut-être aussi un des aspects qui a le plus frappé chez Magnani, c'est la force de caractère, enfin, la volonté de faire face.
Elle était toujours Anna Magnani, très connue dans tout le monde, même dans la province la plus lointaine. Elle était dans la rue, la foule autour d'elle l'appelait la Narella, etc. des États-Unis. Mais on n'allait pas la voir au cinéma.
En 1961, Youri Gagarine, du haut de sa navette spatiale, rend un hommage à Anna Magnani. Mais quand elle tourne en France le magot de Josefa, en 1964 avec Claude Autant-Lara, les distributeurs italiens demandent à retirer son nom de l'affiche pour la diffusion du film en Italie. À force d'être considérée comme le poison du box-office, Nanarella ne tourne plus guère. Elle refusera de jouer dans la Ciociara le rôle de mère pour une nouvelle actrice, Sophia Loren. Elle revient alors à ses premières amours, au théâtre, mais cette fois dans la tragédie. C'est Médée et la Louve. Franco Zeffirelli met en scène la Lupa de Verga et lui confie le rôle principal. C'est un triomphe en Italie et à Paris, où la pièce est donnée en 1965 au Théâtre des Nations.
Maintenant, je crois que c'est un retour. Enfin, j'ai accepté, il m'a convaincue, parce que j'avais une grande peur, après 10 ans. Et au début, c'était quelque chose comme pour m'éprouver, comme on dit, pour voir si j'étais encore capable d'être là sur le plateau. Moi, j'ai fait un autre métier jusqu'à hier. Vous voyez, par exemple, en faisant un film, je parle comme je parle maintenant. Et là, hier soir, j'avais un trac, alors. Et à la fin du premier acte, ma voix, je ne savais pas même la porter. Mais je dois dire, c'est pas question d'être ni modeste, ni trop... Après cette preuve, je crois que chaque année, je ferai du théâtre. Je veux pas de projet. Je crois que le projet, c'est de reprendre cette Louve et de la promener un peu. En tout cas, j'aimerais bien de jouer Antonia Cléopâtre de Shakespeare, Médée, Macbeth, Mère Courage. Alors, Mère Courage, la première. Vous ne me voyez pas sur l'écran parce que le film qu'on m'a proposé jusqu'à aujourd'hui, ils étaient des mauvais films. Et je viens de refuser un film il y a 3 mois. Moi, j'ai dit que il faut faire de beaux films. Si on ne m'offre pas de beaux films, moi, je ne veux pas faire du cinéma.
À la fois, elle incarne souvent un personnage douloureux, finalement, mais en même temps, on la sent comme un roc inébranlable.
Et c'est ce qui apparaîtra dans les derniers films, enfin, qui ne sont même pas d'ailleurs des films, qui sont des téléfilms, sous la direction de Giannini, qui sont en fait les derniers films qu'elle a tournés, puisqu'elle est morte malheureusement quelques mois plus tard, en 71-72, et elle est morte en 73, qui sont 4 portraits de femmes, qui ensuite ont été diffusés dans le désordre, mais qui voulaient en quelque sorte couvrir 4 moments de l'Italie. Il y avait un film qui se situe dans le cadre du Risorgimento, un autre dans le cadre de la guerre de 1915-1918, puisqu'en Italie la guerre de 1914 commence en 1915, un film pendant l'occupation allemande, qui reprenait dans le fond certaines des thématiques de Rome ville ouverte, et enfin un film contemporain où elle interprétait une prostituée qui s'achète une nouvelle voiture, et qui voit d'ailleurs cette voiture rapidement détruite dans un accident et qui en est bouleversée. Donc ces 4 portraits étaient en quelque sorte la synthèse du talent, ou en tout cas se voulait la synthèse du talent d'Anna Magnani, en lui offrant 4 personnages de femmes extrêmement fortes, capables d'affronter courageusement toutes les circonstances, y compris des circonstances particulièrement dramatiques. Et ce n'est que le dernier épisode qui réintroduit un petit peu d'éléments de comédie dans un registre totalement dramatique.
Et en même temps, résumant d'après le fil que vous indiquez, une sorte d'histoire de l'Italie finalement.
Oui, qui est une des caractéristiques générales du cinéma italien, qui s'est souvent beaucoup intéressé au devenir de l'Italie. Peut-être parce que c'est un devenir plus problématique Dans la mesure où l'Italie n'existe que depuis 1860, et qu'au moment où la Magnani travaille, on est à peine arrivé, enfin si on parle de ces quatre films, on est autour de 1970, mais quand Magnani commence à jouer ses premiers films, on est en 1930, l'Italie est un pays de très fraîche construction. Et c'est évidemment quelque chose qu'à un moment de sa carrière, Anna Magnani a rencontré, quoi, et a porté sur l'écran, cette réflexion sur les principaux épisodes de l'histoire récente de l'Italie, épisodes que l'on répète volontiers comme pour confirmer l'existence d'un État qui, par d'autres aspects, a parfois tendance à s'effilocher.
Mmh. Mais ce qui fait que la Magnani elle-même semble incarner, du moins à l'étranger, une sorte d'image vivante de l'Italie.
Oui, italianissime, sûrement. C'est certainement parmi les diverses raisons qui expliquent la notoriété, la popularité de la Magnani hors d'Italie, c'est que incontestablement, c'est une femme qui représente l'Italie.
Niente voglia, niente spero, cade letto sembra a fianco a me. Sei sicura di st'amore, come so sicura di te. Oi vita mia, oi cuore, e di sto cuore, sei stato prima amore, o prima l'ultimo sarà. Quando notte non te vedo, non te sento in queste braccia, non te vaso di sta faccia, non te stregno forte in braccio a me. Ma se t'hanno masti smonda, mi fai piangere per te. Poi vita mia, poi cuore, e chi sto cuore, sei stato prima amore, o prima l'ultimo sarai.
Et alors, à Rome, elle est toujours présente aussi. Vous racontiez un petit épisode.
Ah oui, ça c'est merveilleux. Ça est arrivé il y a 3 jours, 4 jours. Et j'allais faire les courses au marché. Normalement, j'avais avec moi des copies de mon livre parce que j'étais en train de travailler aussi. Et alors, pendant que j'achetais des choses, le type là qui vendait tout ça m'a dit « Anna Magnani !» Alors, dès qu'il a dit « Anna Magnani », des autres types qui étaient là, ils sont venus et ils ont commencé à parler d'Anna Magnani et aussi quel est le meilleur film. C'est-à-dire la même question que vous m'avez posée, il l'a posée entre eux et il donnait des réponses, mais en général, c'était Ron Villouvert qui l'aimait le plus, ça c'est normal. Et mais il était, ça a été vraiment, c'était vraiment très étrange parce que il parlait d'Anna Magnani comme si elle était vivante, bien vivante.
Effectivement, 16 ans après sa mort, elle est toujours là.
Oui, elle est toujours là dans l'imaginaire populaire. Ça c'est la chose la plus importante aussi parce que elle n'est pas toujours là dans les bureaux des intellectuels ou des écrivains ou des gens comme ça. Elle est toujours là parmi les gens.
Liberata da una corda, adesso tocca un'altra a fa la serva.
Anna Magnani par Pascal Lismonde. avec à Rome Luca Magnani, Suso Cecchi d'Amico, Mario Monicelli, Patricia Pistagnezzi et à Paris Jean Gilly. Document INA, Yves Builly. Le livre sur Anna Magnani est édité par le Centre Georges Pompidou et Fabri Editori. Groupe de réalisation, Jean-Claude Gauthier, Yvan Tarlet et Claude Giovanetti.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 juillet 1990.
Those happy hours I spend with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of all, I miss you so. You once filled my heart with no regrets, no fear. Most of all, I miss you so.
You too, how much you live.
star.